qu'on a commencé un peu sur Abraham. Alors, c'est vrai que ça a été entrecoupé, mais on a vu un vendredi soir et dimanche dernier l'après-midi, on s'est arrêté sur quelques leçons pratiques de la vie d'Abraham. Et je ne sais pas vous, mais moi ça m'interpelle. Je me dis finalement, toutes ces histoires, on les connaît, on les lit, on peut se dire à quoi ça sert, mais quand on y réfléchit, on se rend compte que quand même, il y a des choses que Dieu veut nous montrer. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur un dernier, il y en a certainement d'autres, hein. Mais un dernier aspect de la vie d'Abraham, moi qui m'a interpellé, ça m'a fait du bien, ça m'a parlé. Je voudrais que ce matin, ça puisse aussi nous parler. Et je crois d'autant plus que dans le contexte d'aujourd'hui, c'est important. Hein? C'est important. Alors, regardez, cet aspect de la vie d'Abraham, on ne le trouve pas dans la Genèse, on le trouve dans le livre de Néhémie. Alors, vous allez me dire quel rapport, mais Néhémie, vous rappelez, c'est la reconstruction des murailles. Hein? Vous rappelez que, bon, il y avait la situation un peu compliquée. Et puis, à un moment donné, Néhémie, chapitre 9. Le peuple est dans un moment, le peuple d'Israël est dans un moment de jeûne, de repentir. Ils se repentent parce qu'ils réalisent que si la situation en était arrivée jusque-là, c'était de leur faute. Hein, donc ils se repentent devant Dieu. Et là, il y a quelque chose qui est dit que je voudrais relever. Alors regardez avec moi, Néhémie chapitre 9. On va lire peut-être à partir du verset 4. Alors vous allez voir, il y a toute une série de noms un peu barbares à coucher dehors, mais on va les lire quand même. Hein, il est dit Josué, Bani. Vous imaginez, vous appelez Bani. Hein. Cadmiel, Shebania, Buni, Sherabia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Cadmiel, Bani, Ashbania, Sherebia, Odija, Shebania et Petchaja, excusez-moi, dirent: Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux t'adore. Et c'est ça qui m'intéresse, versets 7 et 8. C'est toi, Éternel, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Guirgasiens, et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Amen. Voilà, et bien entendu, je voudrais juste, j'ai lu un peu le contexte, mais je voudrais qu'on retienne juste le verset 7 et le verset 8, parce que vous avez encore ici un aspect important qui ressort concernant la vie d'Abraham et sur lequel je voudrais m'arrêter ce matin. Faut quand même réaliser que quand on parle d'Abraham, on ne parle pas de n'importe qui. Abraham, c'est le père des croyants, c'est le père de la foi. Jacques, dans son épître, nous dit qu'il fut appelé l'ami de Dieu. Moi, j'aimerais bien être l'ami de Dieu. Hein. Et c'est vrai, quand on lit l'histoire d'Abraham, on se rend compte qu'il y avait une connivence entre lui et Dieu. C'est fou. Hein. Je pense à cet épisode, à propos de la destruction de Sodome et Gomorre, Dieu va dire: mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous imaginez? C'est comme si Dieu est en train de dire: c'est mon ami, je ne peux pas ne pas le lui dire. Vous imaginez un peu la connivence qu'il y avait, la connexion qu'il y avait. Et quand il est dit, il fut appelé ami de Dieu, mais c'est vrai quoi. Et c'est pour dire qu'entre Dieu et Abraham, il y avait une communion, il y avait une relation extraordinaire. Pourtant, on oublie souvent, et moi ça m'a interpellé, on oublie souvent qu'à la base, Abraham c'est un païen. C'est pas un juif Abraham, c'est un chaldéen. D'ailleurs, on l'a lu là, hein. C'est toi, Éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Et on sait que les Chaldéens, ils avaient des pratiques abominables, hein, notamment avec les faux dieux, il y avait de l'idolâtrie, il y avait tout un tas de choses, il y avait de l'occulte, il y avait, hein, et il sort de là, Abraham. Hein, voyez, il sort de là, comme quoi, ce que Dieu est capable de faire avec une vie. Voyez. Et ce que je voudrais faire ressortir, et c'est ce qui a plu à Dieu chez Abraham. Et c'est important parce que si ça a plu à Dieu à ce moment-là, ça plaît à Dieu encore aujourd'hui. Voyez. Et vous l'avez au verset 8. Je voudrais surtout qu'on retienne ça. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi et tu fis alliance avec lui. Et moi, je l'ai souligné. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi et tu fis alliance avec lui. Voyez. Ce qui a plu à Dieu, c'est son état de cœur. Rien d'autre. Hein. C'est son état de cœur. Et ce matin, juste pendant quelques instants, je voudrais vous parler d'état de cœur. Parce que c'est important. Et peut-être nous poser la question, dans quel état de cœur sommes-nous? Et je crois que, surtout aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe, C'est important de se poser la question parce que je me rends compte qu'il y a tellement de choses qui peuvent altérer notre état de cœur, nos dispositions de cœur. On est bien disposé, puis on ne l'est plus. On est contrarié, il y a tout un tas de choses, il y a ceci, il y a cela, il y a la vie, il y a les aléas de la vie. Et notre état de cœur est altéré. Voyez, et alors aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on peut vite être ulcéré. Hein, surtout quand ça fait demi-heure, trois quarts d'heure que vous êtes au volant de votre voiture, que vous arrivez à un rond-point, qu'il est bouché. Voyez, ça, là, voyez, notre état de cœur. Je crois que c'est important de se poser la question. Hein. Il y a tellement de choses qui peuvent l'altérer. Et ça m'interpelle. Et je voudrais nous poser la question parce que s'il y en a un qui sait dans quel état notre cœur, c'est Dieu. Et je pense à ce texte, à ce passage, on va l'afficher dans Jean chapitre 2. À un moment donné, il est dit quelque chose, moi, que je garde toujours dans un coin de mon esprit parce que ça m'interpelle. Regardez, il est dit, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. C'est super. Mais regardez, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et regardez, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Et c'est ça qui m'interpelle. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Dieu sait ce qu'il y a dans l'homme. Dieu sait ce qu'il y a en chacun de nous. Et je reviens à Abraham, ben Dieu, malgré son passé, il était un chaldéen, Dieu a vu ce qu'il y avait en lui. Voyez, comme Dieu voit ce qu'il y a en nous ce matin. Voyez. Et ce que Dieu a vu en lui, ce sont des bonnes dispositions de cœur, et notamment un cœur fidèle. Et ce cœur fidèle, il va se traduire, rappelez-vous, notamment, quand dans Genèse 22, Dieu va lui demander son fils et qu'il va l'offrir. Voyez, on voit son cœur fidèle qui est là, et il est prêt à aller jusqu'au bout. Hein, heureusement que Dieu est intervenu parce qu'il allait jusqu'au bout, hein, un cœur fidèle. Voyez. Mais et c'est là où je voudrais en venir ce matin. C'est ça que je voudrais faire ressortir. C'est que quand même, Abraham, et on en a parlé les deux dernières fois, il était loin d'être parfait quand même. Le père des croyants, le père de la foi, l'ami de Dieu. Mais alors quand on regarde un petit peu en détail sa vie, c'est pour ça que c'est intéressant de s'y arrêter. Il était loin d'être parfait. On l'a dit, mais... Il avait un sacré problème avec la vérité. On l'a vu, ça, notamment dimanche dernier. Hein, Genèse 12, Genèse 20, à propos de Sarah, c'est ma sœur. Enfin, je ne sais pas. Si on retranscrit ça aujourd'hui, franchement, vous imaginez, vous avez un chrétien dans l'église, ou peut-être vous avez un frère, une sœur, et vous savez qu'il a un problème avec la vérité, qu'il ne dit pas toujours la vérité, qu'il ment un peu sur les bords. Bon, ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez, mais qu'est-ce que c'est ce croyant, là? Hein? Ça ne vous choquerait pas, vous, un peu? Quelqu'un bon, qui a ce genre de problème-là, qui, ouais, bon, c'est, vous voyez, peut pas, ben ça c'était Abraham. Et on se dit, c'est quand même fou, franchement, pour un croyant, pour le père de la foi, pour le père des croyants, pour celui qui a appelé ami de Dieu, avoir un problème avec la vérité, vous voyez. J'ai noté aussi, on en a parlé, on a parlé de l'affaire Agar. Je l'ai dit dimanche dernier, Genèse 16, il n'a pas fallu beaucoup le forcer quand même, hein. Voyez, alors c'est vrai, comme j'ai dit, que c'était une pratique qui se faisait à l'époque de mettre la servante dans les bras de l'homme pour avoir une postérité. Mais enfin, quand même, on se rend compte qu'il n'a pas fallu trop le forcer. Voyez, quand, Abraham, il n'était pas parfait. Hein. Et je crois que c'est important de le relever parce que quand on prend tous ces hommes de Dieu, notre tendance à nous, à moi, c'est de les... mettre là-haut les hommes de Dieu, vous voyez, on dit, oh là là, les hommes de Dieu. Et je veux dire, même les pasteurs aujourd'hui, parfois, prendre, oh ça, oh. Mais on se rend compte finalement que les hommes de Dieu, c'est des hommes dans leur faiblesse. Et quand la Bible dit à propos d'Élie qu'il était un homme de la même nature que nous, mais c'est pour nous montrer que quelque part, ils avaient tous leur faiblesse. Là, on parle d'Abraham, mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, là encore, un titre... à faire pâlir de jalousie d'un croyant, hein. Vous n'aimeriez pas vous être appelé l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu? Ben oui, hein. Ben quand vous regardez qui était David et ce qu'il a été capable de faire, vous dites, ouf, voyez, Moïse, je n'ai pas donné le verset, mais vous rappelez que dans Deutéronome 34, il est dit, il n'a pas paru de prophète plus grand que lui, qui parlait à Dieu face à face, etc. Et c'est un témoignage rendu par Dieu lui-même. Il n'a pas paru de plus grand que lui. Waouh. Pourtant, quand même, quand vous regardez, Moïse, il avait un sacré problème avec la colère. Hein. Il avait un sacré problème avec la colère. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'est pas rentré dans le pays de la promesse. Parce qu'à un moment donné, vous connaissez l'histoire. Hein. C'est même colère, il a frappé le rocher. Et quand vous regardez un petit peu toute sa vie, moi, je l'ai souligné dans ma Bible, mais à plusieurs endroits, vous voyez, Moïse s'emporta à la colère de Moïse. Pourtant, il est dit que c'était un homme fort patient, plus patient que tous, l'homme le plus patient de la terre. Eh bien, l'homme le plus patient de la terre, hein, vous voyez. Alors si vous retranscrivez ça aujourd'hui, imaginez dans l'église, vous avez un chrétien, un frère, une sœur, colérique, qui fait que se mettre en colère pour un oui, pour un non. Il y a un truc qui ne lui va pas, il s'emporte. Qu'est-ce que vous diriez? Mais c'est quoi ce chrétien? Il n'est pas né de nouveau celui-là. C'est pas possible. Il fait que se mettre en colère, on ne peut rien lui dire. De suite, il s'emporte et puis ça part. Les mots, vous savez, quand on est en colère, des fois, on dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Et ça vous choquerait, ça nous choquerait. Ben, Moïse, c'était ça. Moïse, il avait un souci avec la colère. Voyez. Ce que je veux faire ressortir au travers de tout ça, et notamment d'Abraham, c'est que Dieu sait très bien qui nous sommes et ce que nous sommes. Et c'est pour ça, et vraiment je voudrais insister, parce que moi ça m'a parlé, ça m'a interpellé au travers de ce qu'on a lu là, c'est pour ça que Dieu n'attend pas de nous la perfection. Dieu n'attend pas de nous, de toi, de moi la perfection, parce qu'il sait ce que nous sommes. Voyez. Alors quelqu'un va me dire, oui mais... il est écrit, c'est Jésus qui le dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Matthieu 5, verset 48. Mais dans l'idée, dans la pensée, quand vous regardez, quand Jésus dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait », c'est dans le sens que nous marchons vers la perfection. Vous comprenez, c'est quand même différent. Nous sommes appelés à nous perfectionner. En tout cas, ça doit être notre désir. Seigneur, je sais que je ne suis pas parfait, je sais qu'il y a des lacunes, mais je tends à la perfection, voyez. Et c'est dans ce sens-là que Jésus le dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Parce que si je ne le comprends pas de cette façon-là, on peut dire, Jésus met la barre tellement haut que je n'y arriverai jamais. Quoi. Parce que je me connais, je sais comment je suis, j'ai encore des lacunes ici et là, Seigneur. Mais Dieu ne nous demande pas la perfection. Voyez, il n'attend pas de nous la perfection. D'ailleurs, même l'apôtre Paul, et vous connaissez ce verset, on va l'afficher, qui pourtant là aussi, on parle d'une pointure. Rappelez ce qu'il dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 12. On va l'afficher, ce verset, hein, vous le connaissez, Philippiens, chapitre 3, verset 12. Après, je ne l'ai pas mis ? Philippiens 3, verset 12. Voilà. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il est conscient qu'il ne l'a pas atteint. Mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Paul était conscient, pourtant là aussi, on parle d'une pointure, Paul, hein. Mais il était conscient, quand il dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire à l'apôtre Paul ?« Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. » Peut-être qu'il y avait une petite tendance là, voyez, chez lui à... voyez, à... Donc il n'avait pas atteint la perfection, mais... alors, quand je dis ça, que Dieu ne nous demande pas la perfection, comprenez-moi bien dans le sens dans lequel je le dis. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une porte ouverte au péché, ce n'est pas une porte ouverte au laxisme, ce n'est pas une porte ouverte au laisser-aller, en disant, bon, alors puisque Dieu ne demande pas ça, allons-y gaiement. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que parce que Dieu nous connaît, parce que Dieu sait comment on est, il n'attend pas de nous la perfection. Et je pense que c'est important de le réaliser, parce que déjà, premièrement, ça va enlever une arme à l'ennemi de notre âme. Ça va lui enlever l'arme de la culpabilité. Parce qu'on sait que le diable, c'est l'accusateur des frères, l'accusateur des sœurs. Hein, et s'il peut nous faire tomber dans la culpabilité, tu as vu comment tu es? Tu as vu ce que tu fais? Tu as vu encore de quoi tu es capable? Tu as vu tes réactions? Et c'est vrai que quand on regarde à nous-mêmes, enfin moi je vais déjà parler pour moi, des fois on est déçu de nous-mêmes. Hein. Ça ne vous arrive pas d'être déçu de vous? Des fois de vous dire, c'est pas possible. Encore une fois, j'ai eu une réaction, tu vois. Mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Mais pourquoi j'ai dit ça? Mais pourquoi j'ai... pourquoi c'est... Vous voyez? Et des fois, on est déçu. Et on vient au pied du Seigneur, on se repent, on dit, Seigneur, aide-moi, mais secours-moi, tu vois, encore une fois, je suis retombé dans le même travers. Pourtant, Seigneur, je veux changer, comme on l'a chanté, change-moi, Seigneur. Mais tu vois, Seigneur, mais quand on réalise que Dieu ne demande pas la perfection, parce qu'il sait comment on est, mais on est déjà en train d'enlever une arme à l'ennemi de notre âme. Parce que quand il vient nous titiller en nous disant « Mais tu as vu comment tu es ?» Ben on peut dire « Mais je sais, hein. Je suis au courant. Hein. Je suis au courant. » Mais ce que je peux faire, ce que je fais, c'est que je viens au pied du Seigneur. J'ai un avocat. Je sais que je peux venir me repentir et lui demander pardon. Et qu'il est celui qui va me relever. Vous voyez, ce matin, je voudrais tellement qu'on réalise que ce n'est pas la perfection que Dieu nous demande. Par contre... Et c'est là où je reviens au verset qu'on a lu. Ce que Dieu attend de nous, parce que ça dépend de nous, c'est des bonnes dispositions de cœur. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi et tu fis alliance avec lui. Et ce verset il m'a interpellé parce que vraiment, et on l'a vu, Abraham, ce n'était pas un homme parfait, mais Dieu a aimé ce qu'il a trouvé en lui, c'est ses bonnes dispositions de cœur, un cœur fidèle. C'est pour ça que quand on met les choses en perspective, on se rend compte que, oui, Dieu n'attend pas de nous la perfection parce qu'il sait ce qu'on est. Et on le voit au travers d'Abraham, on a vu qui il était, ce qu'il était capable encore de faire. Mais il attend de nous, par contre, de bonnes dispositions de cœur. Et là, on a notre rôle à jouer. Par contre, là, c'est notre responsabilité de dire, Seigneur, mais change-moi, Seigneur. Je veux encore, Seigneur, avoir ces bonnes dispositions de cœur pour que tu puisses te servir de moi, que tu puisses m'utiliser, que tu puisses, Seigneur, vraiment faire de moi ce que tu veux, pour que tu puisses m'introduire dans tes plans. Et c'est ça qui est important, voyez. Dieu fera toujours alliance avec des hommes et des femmes qui ne sont pas parfaits, qui n'ont pas atteint la perfection, mais par contre qui ont ces bonnes dispositions de cœur qui lui permettront d'agir. Et la vie d'Abraham, elle est là pour nous montrer cet aspect-là, vous voyez. J'attends pas de toi, Dieu n'attend pas de nous la perfection, parce qu'il sait, il sait ce qu'il y a en nous, il connaît nos travers. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais il sait ce qu'on est. Mais par contre, il attend qu'on ait de bonnes dispositions de cœur pour dire, Seigneur, change-moi, vous voyez. Et Dieu fait alliance. Et je vais même aller plus loin. C'est bon d'être conscient de ses faiblesses, de ses imperfections. C'est bien. C'est très bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les cultiver. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se dire « Oh, ben je suis comme ça hein. !» Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Mais c'est bien de se rendre compte de ses faiblesses, parce que, un, ça va nous maintenir dans l'humilité. Ça va nous amener à rester à notre place et pas nous prendre pour ce qu'on n'est pas. Mais ça va aussi permettre à Dieu de se servir de nous, et ça va permettre à Dieu de nous façonner et de nous modeler. Parce que tant que je suis pas, tant que je pense que bah, tout va bien, ou que je pense que j'ai atteint un certain niveau, ou que je suis assez spirituel pour, bah, Dieu ne peut pas m'utiliser, quoi. Et c'est bien. Ça nous permet de rester dans une dépendance de Dieu. Et justement, de prendre garde à nous-mêmes. Comment vous voulez prendre garde à vous-même si vous pensez que chez vous, tout va bien? Comment vous voulez... Bah, tout va bien, j'ai pas besoin. Hein. J'ai pas besoin. Alors que si je suis conscient de mes imperfections, si je suis conscient que je n'ai pas atteint la perfection et qu'il y a encore beaucoup de boulot, mais c'est là que je vais être encore plus vigilant, parce que je sais que quelque part, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, je sais que quelque part, si je ne veille pas, je sais que je peux me faire avoir, je peux me faire piéger par l'adversaire de mon âme. Et on va en parler, parce que je crois que c'est important hein, de réaliser que l'ennemi, il est plus malin que nous. Il est plus malin que nous. Mais il faut prendre conscience que pour ça, on est... Voilà, Seigneur, je réalise que... Il y a encore tellement de choses. Mais Seigneur, aide-moi à avoir de bonnes dispositions de cœur. Parce que ça, par contre, c'est nous. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi et tu fis alliance avec lui. Dieu fait alliance avec des hommes et des femmes imparfaits, mais qui veulent avoir, en tout cas, qui ont ce désir d'avoir de bonnes dispositions de cœur. Et je crois que ça, c'est important. Et ça rejoint un petit peu l'image que Jésus a donnée dans Jean 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Vous connaissez ça? Je réfléchissais, je me disais, mais franchement, quoi de plus fragile qu'un sarment? Mais le sarment, par le fruit qu'il porte, il rapporte. Hein. Les viticulteurs, en général, bon, attention, je ne suis pas en train de dire que les viticulteurs, ils sont pleins aux as. Mais on sait qu'une bonne bouteille de vin, voyez? Et ça vient d'où? Ça vient d'un sarment. Et quand on voit la fragilité d'un sarment, il suffit de, hein, des intempéries, il suffit de tout ce que vous voulez, il n'y a plus rien, hein, c'est mâché, c'est cassé. Et Jésus donne cette image, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et c'est vrai que dans nos vies, quand on réfléchit à cette image, on est comme ce sarment. Il suffit des intempéries dans notre vie, il ne faut pas grand-chose hein, pour qu'on soit mâché, cassé, fracassé. Enfin, voyez. Et quelque part, le viticulteur, il n'attend pas d'un sarment qui devienne un chêne. Il attend d'un sarment qui porte du fruit. Voilà. Et quand le Seigneur dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments », il est là pour nous montrer qu'il sait ce que nous sommes, des sarments, fragiles, faibles, imparfaits. Mais ce qu'il attend, c'est que par contre, on porte du fruit. Et pour porter du fruit, il faut avoir de bonnes dispositions de cœur. Je crois que quelque part, ça se rejoint, vous voyez. Seigneur, je suis conscient de ce que je suis, de comme je suis, des progrès encore à accomplir. Seigneur, il y a du travail. Oui, je n'ai pas atteint la perfection. Oui, tu dis, soyez donc parfait, c'est vrai. Et je veux me perfectionner. Mais Seigneur, par contre, même si je suis conscient qu'il y a encore des limites, je veux que tu m'aides à avoir de bonnes dispositions de cœur. Et c'est pour ça que ce matin, c'est important de nous poser la question. En tout cas, je me la pose. La vie passe, les aléas. Seigneur, dans quel état est mon cœur? Parce que vous êtes comme moi, on en a connu, hein, des bien-aimés, des frères et des sœurs. Et quand je dis ça, loin de moi la pensée de juger. Hein. On y avait tellement de bonnes dispositions de cœur. Et puis aujourd'hui, il y en a plein qui ne sont plus là. Hein. Pourtant, il y avait de bonnes dispositions de cœur. Et des véritables. Hein. Vraiment des véritables dispositions de cœur pour Dieu. Mais à un moment donné, pff, voyez. Donc quelque part, Seigneur, aide-moi. Aide-nous. Oui, oui, on peut se tromper. Mais oui, on peut avoir des imperfections. Oui, il y a encore des choses à travailler. Mais Seigneur, je veux garder ces bonnes dispositions de cœur pour toi. Voyez, encore une fois, au travers de ce simple verset-là, tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui. Vous avez un aspect qui ressort de la vie d'Abraham et qui est là encore pour nous encourager et à vraiment veiller sur notre cœur. Et ça suit un peu ce qu'on a vu, prends garde à toi-même, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépend tout le reste. Seigneur, aide-moi, parce que sinon, mon cœur, il peut partir dans tous les sens, vous voyez. Hein, et vous avez quand même noté ici, tu trouvas son cœur fidèle. C'est important, la fidélité, hein, quand on y réfléchit. C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Je te confierai encore plus. On ne sait pas ce qu'il a fait, ce serviteur. Oui, il a fait valoir, mais bon. On ne sait pas qui il est. On ne sait pas trop comment il a fait, mais on sait qu'il était fidèle. Parce que pour le Seigneur, c'est ça qui compte. Et vous avez ce verset-là. Moi, je l'aime beaucoup. Proverbe 20, verset 6. Proverbe 20, verset 6. Il est dit, « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Allez, comme quoi, c'est important. Hein, « Mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Comme pour nous montrer que pour Dieu, c'est important. Et ben, Dieu l'a trouvé dans Abraham. Et pourtant, il était, alors, problème avec la vérité, problème en tout genre. Vous voyez, ben Dieu l'a trouvé chez lui. Alors vous allez dire, mais il y avait des grosses lacunes. Oui, mais parce que Dieu ne demande pas la perfection. Mais par contre, il demande des bonnes dispositions de cœur. Vous voyez, et ça, c'est important. Vous voyez, alors moi, j'ai envie de dire, Seigneur, aide-nous. Aide-moi. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait, tout est mis en œuvre pour nous faire perdre nos bonnes dispositions de cœur. Tout, hein. Pour nous agacer, nous énerver, nous irriter contre ça, contre l'un, contre l'autre, contre... Et des fois, pas que des choses fausses, hein, mais vous voyez, pour nous indisposer. Mais moi, j'ai envie de dire, Seigneur, aide-moi. Je me dis qu'un homme comme David, qui était loin d'être parfait aussi, mais il avait compris ça. Parce que c'est lui aussi, et je ne l'ai pas donné, mais dans le psaume 86, il va dire ceci, il me semble que c'est au verset 11, il va dire ceci, « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » David, il avait compris que dans la vie avec Dieu, c'était une affaire de disposition de cœur. Vous voyez, une affaire de disposition de cœur. Et je crois que quand on a compris ça, on a tout compris. C'est une affaire de disposition de cœur. C'est pour ça que notre cœur, c'est tous les jours qu'il faut l'apporter au Seigneur. C'est tous les jours. Des fois, ça peut peut-être choquer, mais franchement, moi, tous les jours, je dis au Seigneur, je te donne mon cœur. Hein. Mais tu l'as fait il y a déjà 25 ou 30 ans. Oui, mais c'est tous les jours. C'est tous les jours, parce que hier il peut avoir été bien disposé, avant-hier il peut avoir été bien disposé, mais aujourd'hui il arrive quelque chose et on n'est plus disposé. Et quand je dis il arrive quelque chose, les aléas de la vie, hein, vous voyez, j'ai envie de dire Seigneur, mais aide-moi à avoir un cœur bien disposé, parce que pour toi c'est ça que tu cherches, c'est ça qui est important. Alors j'ai envie de nous dire ce matin, ne nous lamentons pas ou plus sur nos imperfections, dans le sens que, oui, on en est conscient, mais je ne veux pas me laisser accabler par l'adversaire, qui viennent dire, regarde ce que tu es, regarde encore ici, regarde encore... Ben oui, je le sais, mais je la porte devant le Seigneur tous les jours. Oui, je sais, Seigneur, j'ai cette tendance à m'énerver, à m'irriter, ceci, cela, bref, hein, à parler parfois trop vite, et puis après je me rends compte que... Mais Seigneur, secours-moi, j'en suis conscient. Mais Seigneur, je veux que tu m'aides à avoir ces bonnes dispositions de cœur. Et que ce verset, moi, vraiment, il m'a marqué. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui. Peut-être que... Vous auriez lu ce verset, je ne sais pas moi, en disant voilà ce que Dieu, aux gens qui connaissaient Abraham, du moins certains, et vous dites voilà ce que Dieu pense. Quoi ? Lui, avec ce qui est la vérité, il a un problème. Hein, et puis avec Agar, ben oui, mais Dieu a trouvé son cœur fidèle devant lui, comme quoi. Voyez. Alors que Dieu nous aide, et moi j'ai envie de dire Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et s'il y a des choses à apporter au Seigneur, il faut que je me repente, c'est tout. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut que je me repente. Je sais bien qu'aujourd'hui, on n'en parle plus trop de la repentance, mais il faut en parler. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et même si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans qu'on marche avec Dieu, s'il faut se repentir devant Dieu, repentons-nous. Mais Seigneur, je veux avoir ces bonnes dispositions de cœur. Alléluia. De toute façon, regardez tous ces gens que Dieu a utilisés, tous, hein. Il n'y en a aucun de parfait. Aucun. Aucun. Je regardais un homme comme Samuel. Et vous regardez dans sa vie, lui par contre, on ne trouve rien. Bon, si, il a eu des problèmes avec ses gosses. Hein. Comme quoi, vous voyez, c'est pas nouveau ça. Hein. Tu as des problèmes avec tes enfants, c'est pas nouveau. Hein. Vous voyez, Samuel, il en a eu. Mais enfin, quant à lui-même, ouais, ben, je me rends compte qu'à un moment donné, même Samuel, on dit, ben, lui, il n'avait pas de péché, il n'avait pas ceci, il n'avait pas cela. Ben, à un moment donné, si Dieu n'était pas intervenu, il aurait oint le mauvais roi. Comme quoi, hein, il aurait mis Eliab, roi d'Israël. Vous imaginez la gaffe de gaffe qu'il aurait faite. Vous voyez, comme quoi, il n'était pas parfait. Vous voyez, tous imparfaits. Mais ce qui a fait la différence, c'est les dispositions de cœur. Et encore aujourd'hui, ce qui fera toujours la différence, c'est ça. Oui, Seigneur, je ne suis pas parfait. Oui, Seigneur, j'ai des lacunes. Mais aide-moi, aide-nous à avoir des bonnes dispositions de cœur. Et quelque part, ça rejoint ce qu'on a vu dimanche dernier. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Voyez, c'est toujours la même chose. Par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur la surface de la terre. Et ce qu'on veut être, c'est debout. Debout. Alors Seigneur, aide-nous à être debout. Aide-nous à être fidèles, à marcher avec toi de tout notre cœur. C'est des choses qu'on sait, mais c'est ces choses simples qu'on a besoin de remettre et de repasser tous les jours dans notre cœur. Alléluia. On demande au Seigneur de nous aider.